Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers.
Od 4. do 8. junija, Lara u Franciji. A bientôt.
Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Douce France, cher pays de mon enfance.
Dobro jutro v današnji zadnji Lari Lingvi v Franciji, tokrat z intervjujem. Kot sem v preteklih dneh že povedala, je Francija že nekaj desetletij ne le pravi talilni lonec svetovnih kultur ter živahno prizorišče umetniških snovanj, raznoterih svetovnih skupnosti in diaspor, temveč tudi ena prvih in mogočnejših nosilk dogajanj v tako imenovanih glasbah sveta. In sicer že vsaj tam nekje od 70-ih let. Veliko je založb, festivalov in agencij, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi, klasičnimi in recimo urbanimi glasbami z vseh koncev sveta, zlasti iz Afrike in Azije. Eden od mož, ki je ena od gonilnih sil tega dogajanja tudi že vsaj vse od 70-ih let, je Alan Weber, muzikolog, publicist, glasbeni poznavalec in strokovnjak za romske, arabske in severnoafriške godbe, sodelavec založbe Okora in francoske javne radijske hiše, občasno tudi sam založnik in promotor ter za nameček od zgodnih 90-ih let, celo polnopravni član Rebabist, odlične gorne egipčanske zasedbe Le Musicien du Nil, ki jo je že v 70-ih letih vozil po svetovnih odrih in studijih in je Ljubljano do zdaj obiskala dvakrat, suka pa se tudi v podlagi. Poklicala sem torej Alana Webra in z njim na hitro poklepetala o vsem pomalem. Se najprej upravičim zaradi zvočnega posnetka z motnjami, ki po domače rahlo fercera. Tudi govorila sva po telefonu, ki ni najboljši prenosnik zvoka v našem telefonskem biroju staro mešalko, na kateri sem dvignila masterja bolj kot je običajno, kaj ti kljub povsem dvignenemu mikrofonu, Alan pogosto ni slišal mojih vprašanj, zato sva se večkrat šla, alo, alo, est-ce que tu m'entends, ali me slišiš? Tudi zato sva morala s tehnikom več kot pol uren klepet malo razrezati. Kakorkoli klepetala sva najprej na hitro o politiki in volitvah, ki puščajo malo upanja, o položaju delavcev v kulturi v Franciji, ki se slabša, ter zlasti težavah organizatorjev z vizami za nastopajoče, ki so vse hujše in zaradi katerih izgubljajo glasbeniki in organizatorji ogromno časa, energije in denarja, včasih pa tudi koncerte. Sva poklepetala v festivalu Les Orientales, ki ga Alan zgodaj poleti konec junija že devetič prireja v malem kraju Saint-Florent-le-Vieil ob Loari z manjšo azvesto publiko, ki vendar več kot zapolni vse redke bivalne kapacitete, medtem ko glasbeniki pogosto svetu neznani in brez posnetkov, a odlični v pretežno tradicionalnih žanrih in živem nastopu, stanujejo pri domačinih. in so najprej morda razočarani, saj so v Evropi pričakovali urbani vrvež in informacijsko razkošje, znajdejo pa se na kmetijah, pogosto celo brez televizorja, zato pa s kravami, nato pa presenečeni in navdušeni nad zeleno idilo, saj so si mislili, da v Evropi podeželja sploh ni več. Prijetno poslušanje.
Quel est le climat général en ce moment en France ?
Oh ben écoute, c'est difficile à dire. Hein. Il y a les, ben, il y a les heureux et les déçus. Hein. C'est comme toujours. Dans une élection, il y a les heureux et les déçus. Il y a, c'est partagé en deux. Il y a ceux qui espèrent que les choses... Il y a ceux qui croient beaucoup dans ce gouvernement. Puis il y a ceux qui sont déçus et qui, pour le moment, se cachent dans leur tanière. Se cachent parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et puis parce que surtout aussi c'est le problème maintenant, c'est plutôt que la gauche part complètement en vrille maintenant, c'est ça le problème surtout, c'est que du côté de la gauche ça se présente très mal pour les législatives, les prochaines élections, ça se présente très mal, donc il y a une grosse déception de tous les gens de gauche en ce moment, quoi. C'est plutôt la déception et le constat de, que tout explose un peu, tout est en train d'exploser après la défaite, quoi. C'est l'ambiance un peu. C'est difficile à dire, le climat pour la musique du monde, en général ce qui se passe toujours vis-à-vis du monde politique, le grand problème c'est plutôt dans le monde artistique, le problème, comme vous savez, en France, on a le système des acidiques spectacles, qui est un grand problème, parce que ça permet à plein d'artistes français, de petits artistes français, de vivre de ce, notamment dans le monde du théâtre et de la musique. Donc évidemment, le problème qui va se poser sans doute dans plusieurs mois, c'est de savoir si ce statut d'intermittence de spectacle, qui est, je crois, assez exceptionnel en Europe, va être négocié à la baisse ou pas. C'est plutôt le problème, d'une part, et deuxièmement, de savoir, dans le budget de la culture, puisqu'on a une nouvelle ministre de la culture, de savoir exactement quels vont les budgets et s'il ne va pas y avoir des coupes de budget pour faire des économies. Donc, pour le moment, c'est trop tôt de dire ce qui va se passer encore, mais c'est une question, bien sûr, qui va se poser dans les mois à venir. Pour les musiques du monde, le problème, ça a toujours été le même, et malheureusement, il s'était déjà durci pendant l'époque précédente, c'est-à-dire que pour les gens comme moi qui organisent des concerts de musique du monde, le problème, c'est toujours l'obtention des visas, qui est un problème majeur en France, pour les artistes qu'on fait venir, notamment d'Afrique et du monde oriental, la difficulté sans cesse, le combat permanent qu'il faut mener pour obtenir les visas. Pour des artistes, là encore, je suis en train de faire venir des artistes du Maroc pour la semaine prochaine, pour la suite de la musique. Et on a ce problème d'obtention de visa qui est toujours très très difficile à voir et qui nous fait perdre beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Si ça va s'empirer, je ne suis pas prophète. Je pense que c'est déjà devenu tellement difficile maintenant que je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus, puisque il faut un contrat de travail par musicien, une assurance, prouver que l'artiste est bien un musicien chez lui. Maintenant, on est passé dans la nouvelle loi Schengen, c'est-à-dire qu'il y a une uniformisation des visas en Europe. Et notamment maintenant, il y a le système qui est en train de s'installer dans tous les consulats, qui est le système des empreintes digitales, qui vont être obligatoires maintenant, donc comme aux États-Unis d'ailleurs. Enfin, il faut faire les empreintes digitales pour obtenir les visas. Donc évidemment, c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut maintenant amener chaque musicien au consulat pour faire ça. Donc ça va être encore plus de frais. Et il y a une augmentation aussi du prix du visa qui a augmenté. Mais ça, c'est à un niveau européen. C'est pas qu'à un niveau français.
Oui. Depuis 99, tu m'entends ?
Oui, là, je t'entends mieux, là.
Tu organises le festival Les Orientales, fin de juin. Est-ce que tu peux dire un peu comment ce festival se passe, des difficultés, des joies, tout ?
Bien, ce festival, bon, il a l'avantage d'être à la campagne, donc dans un milieu rural, ce qui est très agréable pour travailler. C'est un festival... qui est consacré, donc, comme vous savez, uniquement aux musiques d'Orient, d'Asie et musique arabe. Et c'est vrai que pour moi, la grande victoire de ce festival, c'est d'avoir aussi à monopoliser un public local, rural, d'origine rurale, qui a beaucoup suivi la manifestation et qui prouve que les musiques traditionnelles, à partir du moment où elles sont écoutées par tout le monde, peuvent être appréciées aussi par tout le monde et que c'est pas simplement des musiques réservées à des esthètes ou à des spécialistes parce qu'elles ont un côté populaire et universel et qu'en fait, les gens, dans le fond, ne demandent qu'à redécouvrir ce patrimoine qui a disparu si on leur donne l'occasion de le faire, s'ils ne sont pas complètement, s'ils n'ont pas le cerveau lavé par toutes les musiques de consommation qu'on essaye d'imposer aujourd'hui. Donc ça veut dire que les gens sont toujours réceptifs à de nouvelles choses. Et donc c'est pour moi une grande victoire d'avoir réussi à imposer ça dans un milieu qui n'est pas le milieu parisien des musiques du monde.
Mmh. Et les gens viennent te rendre visite ou...
Oui, bien sûr, parce qu'on a aussi les fans de ces musiques qui viennent de Paris et de d'autres coins de France, même aussi un peu d'Europe, qui viennent chaque année, parce qu'on a quand même des très grands artistes qui passent et qu'on peut voir. Le festival essaye de présenter en général des artistes qu'on ne voit pas ailleurs, c'est-à-dire des artistes qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont pas forcément tournés en Europe ou en France. Donc souvent, la seule chance de les voir, c'est de venir aux Orientales, quoi.
Et il y a de la possibilité de logement, c'est pas trop de gens dans un moment, dans un petit village.
Oui, ça c'est vrai. C'est effectivement le premier problème qu'on a, c'est le problème de logement. On a un problème de logement assez important parce qu'on n'a que deux hôtels dans le village. Il y a un camping qui est pris d'assaut. C'est le véritable handicap de ce festival, en fait, c'est le problème de logement, effectivement. C'est sûr.
Mais c'est possible de camper.
Comment ?
C'est possible d'aller dans le camping ou de camper quelque part ?
Ben, il y a un petit camping, mais il est pris d'assaut, il est déjà plein. C'est pas Woodstock, quoi. Donc il y a vraiment des endroits très. Mais en même temps, ça ne me gêne pas parce que ça permet de. Maintenant, les gens sont fatigués des grands festivals. Et avec de la consommation partout, des tentes partout, tout ça. Donc moi, ça ne me gêne pas quelque part, parce que du coup, ça reste un festival très intime et convivial. Il y a quand même 12, 15 000 personnes qui viennent pendant le week-end, qui vont voir des spectacles. Donc moi, à la limite, ce côté-là me plaît. Il y a un côté un peu rare, exceptionnel, qui fait qu'on reste dans quelque chose de très, à échelle très humaine. Et moi, ça, finalement, c'est pas si gênant que ça.
Et le logement chez les habitants, ça marche ou ça marche pas ?
Alors, le logement chez les habitants, ça marche un peu, mais comme c'est tellement petit, et il y a quand même en général peu de gens qui le font, et le problème du logement chez les habitants, c'est qu'il est réservé en priorité, eh bien, on s'en doute, aux artistes. Donc, une fois qu'on a de nos artistes, au personnel du festival aussi, notamment aux techniciens, et à voir même aussi, et souvent à certains journalistes, pour le public, il n'y a quasiment plus de place après, parce que Saint-Florent-le-Vieil, c'est vraiment tout petit.
Et les musiciens le trouvent bien de loger chez les habitants au lieu des hôtels ?
Attends, là, je n'ai pas entendu, je rentends plus, là, maintenant.
Est-ce que les musiciens... Allô ?
Oui, là, je t'entends mieux.
Est-ce que les musiciens sont ravis de loger chez les habitants au lieu de l'hôtel ?
Ben, généralement, pour ceux qui viennent la première fois, il y a toujours une petite déception, parce que ils viennent en... Nous, on va en Orient pour découvrir des choses traditionnelles, des paysages, des ambiances. Eux, ils viennent pour voir des grands hôtels, avoir des ascenseurs et avoir la télévision dans leur chambre. Alors, ils s'attendent à ça. Quand ils viennent, ils s'attendent au luxe un peu moderne qu'ils voient à la télévision. Donc, ils sont toujours assez déçus, ceux qui viennent pour la première fois, parce qu'ils se retrouvent finalement dans un village avec des vaches à côté et quelque chose qui ressemble finalement un peu au même endroit où ils vivent. Donc, ils peuvent être un peu déçus. Mais généralement, au bout de deux jours, comme quand ils découvrent l'ambiance du festival et qu'ils voient à quel point c'est un lieu agréable et que les gens communiquent avec eux, là, ils sont contents et il y a une rencontre humaine qui se passe toujours dans ce genre de manifestation. Mais c'est vrai qu'au début, souvent, il y a un peu une surprise. D'ailleurs, ils ne savent même pas qu'il y a en France de la campagne avec avec des champs, des prairies. Ils ont tellement une autre image de notre monde, un monde complètement urbanisé, que pour eux, c'est presque une surprise.
Ça semble intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le label Long Distance ?
Eh bien, le label Long Distance, il va, je crois, s'arrêter pour le moment, parce que mon collègue Armand Amar, qui est musicien et compositeur, est submergé dans son travail, notamment puisqu'il fait beaucoup de musique de films en ce moment, de films importants. Et puis moi, étant submergé dans mon travail de festival et de programmation musicale, plus le fait qu'on est dans une situation, on pâtit comme tous les petits labels du marché actuel, qui quand même fait qu'on vend moins un peu qu'autrefois qu'il y a quelques années. Donc il y a aussi une répercussion qui se fait sur la consommation et la vente de CD à l'heure actuelle, qui fait que des petits labels comme les nôtres, qui sont des labels quand même complètement indépendants et qui n'ont aucune source de subvention, d'aucune sorte, sont un peu aussi pénalisés. Donc c'est un problème qui fait que pour le moment, on met un peu en parenthèse le label, quoi.
Et Zaman,
par contre, ça marche très bien. C'est en pleine expansion, on peut dire même. Ils sont localisés, l'équipe est localisée à Nantes. Vous pouvez voir d'ailleurs le site Zaman Productions. Il y a beaucoup d'artistes et les tournées, par contre, ça c'est quelque chose qui marche très très bien. Et c'est personnellement, moi, je dois dire sincèrement ce que je préfère, parce que je trouve que ces musiques sont avant tout des musiques qui sont faites pour être vues en spectacle. Et c'est toujours dans la scène que les artistes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois que c'est des musiques qui sont plus faites pour être vues que écoutées sur CD, je trouve personnellement. Hein.
Mais des fois, vous sortez le disque aussi avec Zaman, ou non ?
Non, mais Zaman, non, c'est pas lancé dans la production de disques. Je sais que d'autres le font, notamment en France, il y a Accord Croisé qui fait le système du disque et de la production. Mais bon, on va attendre un peu, parce que là, c'est vrai qu'on a déjà, en sortant de l'expérience de longue distance, je ne me vois pas me relancer dans la production de disques. De toute manière, la vente des disques, même quand on y arrive, ça ne permet pas de générer de bénéfices. Ça permet simplement de diffuser plus les artistes. Mais même tous les petits labels de la musique du monde en général ne font aucun bénéfice à l'heure actuelle. Ils permettent simplement de générer peut-être un ou deux salaires pour deux personnes, mais c'est tout, quoi. Donc, de toute manière, je crois qu'il faut mieux peut-être regarder maintenant vers d'autres formes de diffusion. On verra plus tard, genre DVD, des choses comme ça. Et puis, bon, moi, de toute manière, mon plaisir à moi, ça reste quand même avant tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le spectacle vivant qui m'intéresse le plus, de toute manière.
V drugem delu več kot polurnega klepeta, potem ko je Alan povedal, da založba Long Distance zaradi pomankanja sredstev in časa miruje, medtem ko agencija za manj uspešno obratuje s polno paro, mimo grede smo kar nekaj glasbenih predstav videli tudi pri nas, denimo Čam iz Butana, Zadnje nomade iz Rajastana, uzbeško mojstrico Munadža Tjulčjevo in še koga. Jeseni pa se obetajo Marzuk iz Biskre v Alžiriji, ki se sukajo v podlagi. Skratka, potem sem Alana Webra, ki je predvsem muzikolog, povprašala tudi v tej skupini nekaterih posebnostih, ki so zanimive. Denimo rabi mehov ali dud v afriških glasbah, povezavi skupine Marzuk, ki izvaja sakralni repertoar in katere člani nosijo priimek Sudani, z bratovščino Gnava. Zanimivo mi je Alan povedal, da so alžirski Gnavji po svoje bolj avtentični od svetovno razupitih maroških, tudi zato, ker še razumejo, kaj pojajo besedila v bambarščini in drugih subsaharskih jezikih. Nazadnje sva našla verjetno ves vseh saharskih godb od Marakeša in Bešarja na zahodu do Karnaka in Luksorja na vzhodu, kakopak v subsaharski Afriki. In ker je Alan Weber prosto po muzikantih znila čistokrvni pariški cigan, ki se je do zdaj po večini klatil po krajih od Egipta do Rajastana, se je moje prvo odrezano vprašanje nanašalo na to, kako je prišlo do srečanja z Alžirci iz Biskre. Zvedela sem, da se ta čas klati predvsem po Magrebu.
Ben en fait, le groupe Arzoug, c'est un vieil. En fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années, qui s'appelle Alim Dekish, qui est algérien, qui vit à Paris, et qui voulait beaucoup travailler avec moi depuis longtemps. Et nous avons fait plusieurs voyages ensemble en Algérie, notamment il y a 4-5 ans, il y avait eu l'année d'Algérie en France. Vous savez que chaque année, on a des années thématiques. Maroc, Algérie, etc. Et donc, j'étais allé faire du repérage avec lui dans toute l'Algérie. Et notamment, on avait rencontré ce groupe, donc qui s'appelle Marzoug, et qui vit à Biskra, dans le début du sud algérien, à la limite, disons, des zones habitables, et qui nous avait beaucoup plu. Et Alim Dekish, donc, est devenu agent du groupe et s'est lancé dans la production de différents groupes venus d'Algérie, dont Marzoug, qui a rejoint en fait Zaman Production il y a 2 ans maintenant, et qui fait partie donc du catalogue Zaman Production depuis 2 ans, mais c'est à la suite de cette rencontre donc avec Alim Dekish.
Est-ce qu'ils ont déjà des matériels enregistrés?
Non, alors justement, Alim Dekish, je crois, est en ce moment en Algérie même pour produire le premier disque de Marzoug, et un clip et un petit film DVD sur eux. Ça va être donc leur premier disque qui va sortir bientôt. Ils ont fait une tournée simplement avant avec aussi un joueur de cornemuse, parce que bon, Marzoug utilise la cornemuse, donc qui est la spécificité en général des musiciens noirs du Maghreb, hein, et qu'on retrouve d'ailleurs jusque dans le golfe persique, l'utilisation de la cornemuse qui est très intéressante. Et donc il a travaillé aussi avec Jackie Mollard notamment, qui est un des grands joueurs de cornemuse de Bretagne. Et ils ont fait beaucoup de concerts ensemble au début, Marzoug, et des enregistrements ensemble. Mais là, ça va être le premier enregistrement de Marzoug seul, quoi.
Oui, c'est justement la cornemuse. J'ai trouvé un instrument assez bizarre pour la musique nord-africaine ou maghrébine. J'ai pas entendu avant.
Oui.
Sauf à Tunisie, mais d'abord j'ai pensé, parce que c'était des animateurs de l'hôtel, que c'est plus facile à jouer que la flûte gaïta ou mizmar, qu'alors ils jouent de cornemuse, mais il semble que ça fait la partie de tradition quand même.
Oui, tout à fait, c'est complètement la tradition, ce qu'on appelle le chekwa notamment, on appelle ça notamment chekwa en Algérie, en Tunisie. Effectivement, le pays où il y en a le plus d'ailleurs, c'est la Tunisie, mais c'est un instrument très ancien et qui a existé, c'est un instrument pastoral, des sociétés pastorales du Proche-Orient, et qu'on retrouve dans certaines parties de l'Afrique, dans toute la zone saharienne, et qu'on retrouve aussi, qui a été exporté juste justement par les Africains lors de l'esclavage, donc dans l'océan Indien. C'est pour ça qu'on retrouve notamment cette cornemuse même en Iran, avec un autre musicien qui travaille pour Zaman, qui est d'origine iranienne, Shahnbezadeh, Saïd Shahnbezadeh, qui vit à Paris, qui est iranien noir, donc. Et on retrouve ça aussi, on retrouvait même ça à Bassora, en Irak, avec la, tout le long de, des mers et jusqu'à la mer Rouge, on retrouvait en fait l'utilisation de la cornemuse. Donc c'est un instrument très ancien qui est resté d'ailleurs relativement assez pratiqué, c'est vrai, dans le sud tunisien, alors que par contre on ne trouve pas au Maroc, dans le Maroc.
Mais même pour Afrique, ça, je ne sais pas si j'ai entendu de la musique avec cornemuse africaine d'Afrique du Sub-Sahara. C'est quel pays qui l'utilise ? Est-ce que tu sais ?
Oui, ben les pays qui l'utilisent, il y a une partie du Soudan, il y a, on le trouve au Yémen un peu aussi. Partout, il y avait des ports maritimes en fait qui étaient liés au commerce autrefois. C'est-à-dire Yémen, Iran. Ensuite, de l'autre côté, effectivement, côté Afrique, c'est plutôt une partie du Soudan. On en trouve un peu en Ouganda aussi. Et puis après, c'est effectivement le sud algérien et sud tunisien.
Mmh. Avant, tu as mentionné que ça vient d'Afrique noire.
Oui, c'est ce qu'on dit, effectivement. Et... d'ailleurs, on disait comme on disait que les... justement, comme on appelait les Gnawa des Soudanais au début, enfin les Soudanais, puisqu'il y avait beaucoup de caravanes qui venaient d'Afrique pour amener les esclaves autrefois, on dit que c'était les sociétés plus ou moins pastorales africaines qui utilisaient cette cornemuse. Mm-hmm. C'est ce qu'on dit, mais en fait, en même temps, je pense que c'est un instrument universel, puisqu'on le retrouve dans l'Antiquité, dans toute l'Europe et dans les pays celtiques et quasiment dans le monde entier. Hein.
C'est juste parce que les membres de famille s'appellent Soudan et puis on trouve dans le groupe aussi les Krakep, je crois. C'est les Crotales,
juste,
les
oui.
Crotales, oui. Et les Crotales sont un instrument premier de Gnawa, c'est presque synonyme avec Gnawa. Je voudrais demander quelles sont les correspondances avec, disons, de Gnawa et la musique de Marzouk.
Bah, les correspondances, en fait, elles sont confrériques, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les populations noires, là j'étais encore en Tunisie, notamment le week-end dernier, parce que j'ai un projet de monter un festival en Tunisie, là, peut-être pour l'année prochaine, et j'ai vu encore constater, une fois de plus là-bas, que toutes les confréries noires qui se sont développées, qui se disent descendantes de Bilal, premier esclave muezzin affranchi à l'époque du prophète Mohammed, qu'on appelle Stambouli en Tunisie, ou donc Marzouk ou Imerzag en Algérie, ou Gnawa, sont issues toutes de la même filiation. C'est une filiation confrérique, soufie, d'origine soufie et de transe, de guérison thérapeutique et autres, qui ont toutes des saints locaux dont elles se répondent, notamment Marzouk, c'est Sidi Marzouk, hein, qui est un saint patron d'Algérie. Et elles ont en commun d'être toutes des ordres confrériques qui se sont créés dans le Maghreb, et on retrouve effectivement souvent les mêmes instruments, aussi l'utilisation du gambri, qui est très courante, pour accompagner un certain nombre de rituels de transe ou de thérapie.
Oui, j'ai vu que l'autre groupe qui s'appelle Divan de Biskra, il utilise le gambri, mais Marzouk, il ne l'utilise pas.
Non, exactement, tout à fait. Il y a d'ailleurs, pour être franc, le gambri s'arrête justement en Algérie. Et après, j'ai remarqué notamment avec depuis Marzouk, on peut dire, jusqu'à la Tunisie où j'étais, on ne trouve plus le gambri notamment. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on retrouve plus que la cornemuse. Après, en Tunisie, les confréries, donc ce qu'on appelle les rituels Stambouli, n'utilisent pas le gambri, effectivement.
Mm-hmm. Oui, le son est très différent, alors c'est un peu bizarre. Cornemousse est plus semblable à mizmar ou au gaïta.
Bah oui, c'est vrai. Oui, plus c'est un instrument de plein air, d'extérieur, quoi. Mm-hmm. Plus c'est un instrument d'extérieur. Mais les fonctions sont quand même les mêmes. Elles ont en commun d'être les mêmes fonctions. Des fonctions... religieuses et rituelles.
Mmh. Et quel genre de fête religieuse Marzouk joue ?
Eh bien, ils font toujours pareil. Hein. C'est un peu ce qu'on trouve aussi en Tunisie ou au Maroc, ou bien il y a les processions vers les lieux saints, c'est-à-dire des saints patrons lors des mouleds ou des moussems, comme on appelle ça en Algérie. On accompagne les processions, donc qui dirigent la procession. Ou bien on a le système des diwans, donc des réunions, des assemblées qui ont un rôle soit de purification, soit de guérison, avec une participation aussi de femmes très souvent qui est tolérée. Et on retrouve d'ailleurs à peu près les mêmes les formules. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que comme on sait, les formules rituelles sont de langue africaine, comme la langue Haoussa, Bambara, ou bien le Sonraï aussi qu'ils utilisent. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que chez les Gdaouais du Maroc utilisent des formules toutes faites, donc qui ne connaissent pas souvent le sens, des trucs qu'ils ont appris par cœur. Alors qu'en Algérie, par contre, j'avais rencontré des Lignawa algériens, et eux, ils connaissent beaucoup plus ils sont plus authentiques quelque part, parce qu'ils connaissent vraiment le sens de ce qu'ils disent. C'était en langue bambara, et ils pouvaient traduire encore le bambara aujourd'hui, quoi.
Mmh, oui, c'est très, très intéressant. C'est ce que j'ai voulu demander aussi, où tu placerais la musique de Marzouk dans les musiques d'Algérie. C'est probablement pas du raï ni du chabi, mais peut-être les correspondances on pourrait trouver avec, disons, divan de Béchar, Hasna Bécharia, si tu connais.
Oui, très très bien. Oui, non, moi je suis allé à Béchar en plus. Mm-hmm. Je suis allé à Béchar et j'ai vu le divan de Béchar là-bas. Et j'ai vu aussi d'autres groupes. Il y a des groupes magnifiques à Béchar.
Est-ce que ça peut correspondre comme des musiques, disons, du nord du Sahara ou quelque chose comme ça?
Ah ben après, effectivement, c'est toujours difficile de remonter la filière complètement. Hein. Il y a eu tellement d'influences diverses. Je sais qu'à Béchar, notamment, il y a des groupes qui se situent justement entre les influences africaines, Gnawa et autres, de Diwan, et puis qu'en même temps, ont incorporé des modes andalous, des rythmes andalous. C'est très souvent, à Béchar, j'avais l'impression que c'était un peu une rencontre entre la musique andalouse et la musique avec des racines africaines, quoi, en fait. Africanisée, en quelque sorte, on peut dire. Et d'ailleurs, on le voit très bien, parce que, bon, maintenant, faut quand même pas oublier que ces choses-là remontent à plusieurs siècles. Hein. Donc, par exemple, à Béchar, il y avait des groupes mélangés, c'est pas que des Noirs, hein. Il y a des Blancs, enfin des Blancs, des gens d'origine arabe ou berbère, aussi bien, qui se mélangent. Et même au Maroc, maintenant, dans la Gnawa, il y a beaucoup... On peut devenir Gnawa, on n'est pas forcément obligé d'appartenir à une communauté d'origine soudanaise. On peut très bien devenir Gnawa parce qu'on a envie de l'être, de se faire initier et d'être d'origine arabo-berbère, par exemple.
D'accord, merci beaucoup et bonne chance.
Ouais, merci,
bonne chance à la
aussi,
France
hein.
Aussi, oui. Ok.
D'accord,
ciao.
Au revoir, merci.
Au revoir.
Telefonski razgovor z muzikologom Alanom Vebrom, publicistom, promotorjem in poznavalcem glasb sveta, zlasti romskih, severnoafriških in arabskih. Tvoja, ti si Lejla, sem ga posnela posebej za Laro Lingvo, ki se s to dajo s tem trenutkom poslavlja od Francije ali tako imenovanega šesterokotnika, francosko Lexagon, in odpravlja naprej po Evropi. Hvala za pozornost in stay tuned. Ciao.
يلعب يا تمامي تسمني خفايني يلعب يا تمامي تسمني خفايني
Od 4. do 8. junija Lara u Franciji. A bientôt.
Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.